Des certains chemins de traverse enchanteurs et s'astreindre à rester sur la route principale. Je ne ressens jamais aussi vivement les limites de mon talent que lorsque j'écris des nouvelles. J'ai dû lutter contre des sentiments d'incompétence, contre la peur viscérale de ne jamais parvenir à combler le fossé entre une idée géniale et la concrétisation de son potentiel. Ce que je veux dire, en clair, c'est que le produit fini ne semble jamais aussi bon que l'idée magnifique qui a un jour émergé du subconscient, accompagnée de cette pensée enthousiaste. « Mon gars, faut que t'écris ça tout de suite !» Quelquefois, cependant, le résultat est plutôt bon. Et de temps à autre, il arrive même que le résultat soit meilleur que l'idée originale. J'adore quand ça arrive. Le vrai défi est de se lancer, et je suppose que c'est pour ça que tellement d'aspirants écrivains, porteurs de formidables idées, ne se décident jamais à attraper leur stylo ou à taper sur leur clavier. Bien trop souvent, c'est comme essayer de démarrer une voiture par une journée froide. Au début, le moteur ne se lance même pas et se contente de grogner. Mais si vous persistez et que la batterie ne meurt pas, alors le moteur se met en marche, tourne péniblement, puis finit par ronronner. Dans ce recueil, il y a des histoires qui me sont venues dans un éclair d'inspiration. Le tonnerre en été est l'une d'elles, et qui ont exigé d'être écrites immédiatement, même si cela impliquait d'interrompre un roman en cours. Il y en a d'autres, comme Mile 81, qui ont attendu patiemment leur tour des décennies durant. Et pourtant, la concentration rigoureuse que requiert la conception d'une bonne histoire est toujours la même. Écrire des romans, c'est un peu comme jouer au baseball. Le match se prolonge autant qu'il est nécessaire, même si cela doit durer 20 manches. Écrire des nouvelles, c'est plutôt comme jouer au basket ou au football. On joue contre la montre en plus de jouer contre l'équipe adverse. Quand il s'agit d'écrire de la fiction, longue ou courte, la courbe d'apprentissage ne s'interrompt jamais. Je suis peut-être un écrivain professionnel aux yeux du fisc lorsque je remplis ma déclaration d'impôt, mais d'un point de vue créatif, je suis toujours un amateur, je continue d'apprendre mon métier. Nous le sommes tous. Chaque journée passée à écrire est une expérience éducative et une bataille pour se renouveler. La facilité n'est pas permise. On ne peut pas agrandir son talent, il est livré d'origine, mais on peut lui éviter de rétrécir. C'est du moins ce que j'aime à penser. Et puis, j'adore toujours autant ça. 3. Alors voici la marchandise, mon cher fidèle lecteur. Ce soir, je vends un peu de tout. Un monstre qui ressemble à une voiture, un petit air de Christine, un homme capable de vous tuer en écrivant votre avis de décès, un livre électronique ouvrant l'accès à des mondes parallèles, et le grand préféré parmi les classiques, la fin de l'espèce humaine. J'aime bien vendre ces babioles quand tous les autres marchands sont depuis longtemps rentrés chez eux, quand les rues sont désertes et qu'un croissant de lune froid flotte au-dessus des canyons de la ville. C'est dans ces moments-là que j'aime sortir ma couverture à moi et exposer ma camelote. Bon, assez parlé. Tu aimerais peut-être m'acheter quelque chose maintenant, non? Tout ce que tu vois là est artisanal, et bien que j'aime chacun de ces objets, je suis heureux de les vendre, car je les ai confectionnés spécialement pour toi. Je t'en prie, jette-y un œil, mais s'il te plaît, sois prudent. Les meilleurs ont des dents. 6 août 2014. Quand j'avais 19 ans et que j'étais étudiant à l'Université du Maine à Orono, j'avais coutume de rentrer en voiture à Durham, la petite ville du Maine où j'habitais et qui reçoit généralement le nom de Harlow dans mes livres. Je faisais ce trajet toutes les 3 semaines environ pour aller voir ma copine, et ma mère aussi par la même occasion. Je conduisais à l'époque un Brake Ford de 1961, 6 cylindres en ligne et double arbre-à-cames en tête. Et si tu sais pas, demande à ton papa. Voiture que j'avais héritée de mon frère David. L'I-95 était moins fréquentée à cette époque et quasi déserte sur de longues portions une fois le week-end de Labor Day passé et les estivants retournés à leur vie de travail. Pas non plus de téléphone portable en ce temps-là. Si on tombait en panne, on avait 2 possibilités. Réparer soi-même ou attendre qu'un bon samaritain s'arrête et nous conduise au garage le plus proche. Au cours de ces trajets de 150 miles, environ 240 km, j'avais élaboré une fiction horrifique autour du Mile 85 qui se situait au milieu de nulle part entre Gardner et Lewiston. je m'étais convaincu que si mon vieux break me faisait le coup de la panne, c'était là qu'il le ferait. Je me le représentais échoué sur la bande d'arrêt d'urgence, solitaire et abandonné. Quelqu'un s'arrêterait-il pour s'assurer que le conducteur allait bien ? Qui n'était pas, par malchance, affalé derrière son volant, en train de mourir d'une crise cardiaque ? Bien sûr que quelqu'un le ferait. Il y a des bons samaritains partout, surtout en rase campagne. Les gens qui vivent loin de tout prennent soin de leurs semblables. Mais, poursuivais-je, imaginons que mon vieux break soit un imposteur, un piège monstrueux pour les imprudents. Je me suis dit que ça ferait une bonne histoire, et ça l'a fait. Je l'ai intitulée « Mile 85 ». Elle n'a jamais été retravaillée, et encore moins publiée, car je l'ai perdue. À cette époque, je me shootais régulièrement à l'acide, et j'ai perdu tout un tas de trucs, y compris, durant de courtes périodes, la raison. Avance rapide, près de 40 ans plus tard. Bien que la longue portion de l'I-95 qui traverse le Maine soit beaucoup plus fréquentée en ce 21e siècle, la circulation est toujours fluide après Labor Day et les coupes budgétaires ont obligé l'État à fermer de nombreuses aires de repos. La station-service, doublée d'un Burger King où j'ai avalé tant de Whoppers, située près de la sortie Lewiston, a fait partie du lot. Elle est aujourd'hui abandonnée, chaque jour plus triste et plus envahie d'herbes folles derrière les barrières accès interdit bloquant l'entrée et les rampes de sortie. Les rudes hivers ont défoncé l'asphalte du parking et les herbes folles se sont installées dans les fissures. Un jour que je passais devant, je me suis souvenu de mon ancienne nouvelle et j'ai décidé de la réécrire. Comme mon aire de repos abandonnée se situe un peu plus au sud que mon redouté Mile 85, j'ai dû changer le titre. Tout le reste est à peu près identique, je crois bien. Cette oasis sur l'autoroute est peut-être de l'histoire ancienne, comme le sont mon vieux Breakford, ma copine d'alors et nombre de mes vieilles mauvaises habitudes. Mais ce récit demeure. C'est l'un de mes préférés. Mile 81. 1. Pete Simons, Huffy 2007. « Tu peux pas venir !» lui répéta son grand frère. George parlait à voix basse, même si le reste de la bande, un groupe de garçons du quartier âgés de 12 à 13 ans qui s'étaient choisis pour nom « les pirates de l'asphalte », l'attendaient là-bas au bout de la rue, et plutôt impatiemment. « C'est trop dangereux !» Pete répondit « J'ai pas peur !» Il parlait avec assurance, même s'il avait peur, un peu. George et ses copains allaient à la sablière derrière le terrain de boule, jouer à un jeu que Normie Theriault avait inventé. Normie était le chef de la bande des pirates de l'asphalte et le jeu s'appelait « Les parachutistes de l'enfer ». Il y avait une piste défoncée qui menait jusqu'au bord de la carrière et le jeu était de foncer en vélo sur cette piste en hurlant de toutes ses forces « Les pirates sont les champions !» et en décollant de la selle de son vélo au moment du plongeon. Le plongeon habituel faisait environ 3 mètres de haut et la zone d'atterrissage visée était souple, mais tôt ou tard, quelqu'un atterrirait dans le gravier au lieu du sable et se casserait probablement un bras ou une jambe. Même Pete savait ça. Mais il comprenait aussi en quoi ça pimentait le jeu. Alors, les parents découvriraient le poteau rose et s'en serait fini des parachutistes de l'enfer. Mais pour le moment, le jeu, pratiqué sans casque évidemment, continuait. Mais il n'était pas question pour George de laisser son petit frère y jouer. Il était censé surveiller Pete pendant que leurs parents travaillaient. Si Pete bousillait son Huffy à la sablière, George serait vraisemblablement puni pendant une semaine. Si son petit frère se cassait le bras, la punition durerait tout un mois. Et si, non, pitié, pas ça, son frère se cassait le cou. George supposait qu'il risquait de compter les heures enfermées dans sa chambre jusqu'à être en âge d'aller à l'université. Et puis, il l'aimait son branleur de petit frère. « T'as qu'à traîner dans le coin, dit George. On revient dans une heure ou deux. » « Traîner avec qui ?» demanda Pete. C'était les vacances de printemps, et tous ses amis à lui, ceux que sa mère aurait considérés d'un âge adéquat, étaient partis ailleurs. Deux d'entre eux étaient à Disney World, à Orlando. Et quand Pete y pensait, son cœur se gonflait d'envie et de jalousie, un mélange infect, mais étrangement savoureux. « T'as besoin de personne, dit George. Va faire un tour au magasin ou ailleurs. » Il farfouilla dans sa poche, et en sortit deux billets à l'effigie de Washington chiffonnés. « Tiens, un peu de fric !» Pete regarda les billets.